Propos sur le bonheur, l'émission qui met le bonheur au centre de ses priorités. Ici Nicolas Lehoux, en compagnie de Marie Folcon.
Bonjour.
De Bianca Chéri.
Bonjour.
Et de Robert Rivard.
Bonjour.
Nous sommes à Montréal, dans les studios de Radio Centre-Ville, et notre thème aujourd'hui sera « Vivre à la verticale du monde ». Depuis l'aube du monde que l'être humain aspire à la hauteur, ça fait partie de toutes les cultures, ceux qui ont étudié l'archétypologie mythique, peuvent le mettre en évidence. Même les plus anciennes tribus voyaient l'élévation comme la lumière, tout ce qui est en haut comme positif, tout ce qui est en bas comme négatif. Et même aujourd'hui, l'homme moderne a encore cette idée que le paradis, c'est en haut, l'enfer, c'est en bas, que quand on meurt, on monte au ciel. C'est un peu la direction que les arbres prennent quand ils vont vers la lumière. Donc, il y a en l'homme l'aspiration à la verticalité du monde. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que pour la majorité des gens vivent à l'horizontale. Ils se réincarnent, ils n'ont que des idées à propos du monde physique. Beaucoup pensent que le monde spirituel n'existe pas, qu'il n'y a rien après la mort. Alors que certains hommes ou certaines femmes à travers l'histoire ont démontré qu'on peut mettre au centre de sa pensée la verticale, plutôt s'élever vers les cimes de la conscience. Alors, ce sera notre thème aujourd'hui. Qu'avez-vous à exprimer sur ce sujet, mes amis?
Moi, je trouve que, pour moi, c'est comme logique qu'il y ait ce processus-là, que tout être humain, depuis tout longtemps, là, depuis le début, là, aspire à ça, parce que justement, quelque part, il sent au fond de lui, qu'il est Dieu. Donc, obligatoirement, l'aspiration vient de là. Donc, c'est comme logique, à tout moment, une personne, n'importe laquelle, même quelqu'un qui est à l'horizontale, d'après moi, peut un jour, d'un seul coup, aspirer à justement cette verticabilité, si on peut appeler ça comme ça. Parce que c'est en dedans de nous, c'est vraiment une valeur intrinsèque chez l'être humain, d'être Dieu, d'être l'être, le soi. Donc, en fait, c'est sûr qu'à un moment donné ou à un autre, il va aspirer à plus élevé que juste sa petite vie matérialiste, etc., physique, là. Donc, pour moi, c'est un mouvement naturel, normal, que depuis le début de la civilisation, ce soit comme ça. Qu'est-ce que vous en pensez, mes chers amis?
Ben, comme on peut voir, depuis, comme vous avez dit, dans les temps anciens, ça a toujours été comme... Les prêtres disaient au peuple que Dieu, c'est le soleil, c'est en haut, puis le Dieu de l'enfer, c'est en bas. En fait, pour eux, dès que la chose existe en haut, là, donc ça fait partie du positif, et en bas, c'est négatif. Mais l'homme, lui, il cherche toujours quelque chose pour remplir un vide qui existe en lui. Et parfois, ce vide-là, il le combat avec différentes choses. Mais arrivé à un moment, il sent qu'il a besoin de quelque chose, et il y a quelque chose qui dirige, quelque chose qu'il ne comprend pas, qu'il dépasse, qui est à l'extérieur, qu'il dirige. Et je pense à un moment, donc, il se pose la question, c'est quoi qui me dirige, c'est quoi qui existe à l'extérieur de moi. Et à ce moment-là, je pense que là, maintenant, il prend le chemin pour chercher vraiment c'est quoi le spirituel, c'est quoi qui va combler. Est-ce que vraiment c'est le spirituel qui va le combler?
Ouais. Ouais, j'aimerais ajouter une autre chose là-dessus. C'est bon parce que Bianca vient de mentionner, vient d'écrire en quelques mots le début de l'éveil de l'appétit de la connaissance. Et c'est un moment précieux dans la vie quand cette chose-là arrive. On parle de verticalité. Alors, il y a beaucoup d'emphase au début, là, qu'est-ce que Nicolas disait sur la verticalité. Bon, moi, il ne faut pas se prendre trop aux apparences, parce que ce n'est pas une verticalité, ce n'est pas une hauteur, puisqu'on l'associe avec une hauteur. Hein, veut dire, le grand arbre, l'arbre pousse vers le haut, tout ça. Là. Bon, OK, mais qu'est-ce qu'on dit pas, c'est que pendant ce temps-là, il y a un réseau extrêmement complexe de racines sous l'arbre qui lie toutes les racines comme un cerveau. Et il y a un réseau complexe de neurones et de transmission et d'intelligence. Donc, si on regarde ça des apparences, on se fait encore... on manque une grosse dimension de la chose. L'autre affaire, c'est que c'est vraiment pas... si on regarde la physique quantique et puis des choses de ce genre-là, là, on voit qu'il n'y a pas de déplacement nécessaire pour être accès à d'autres multidimensionnalités et d'autres les autres potentialités de notre être. Donc, le mouvement n'est pas nécessaire. La hauteur n'est pas nécessaire. La chose qui est culturellement engrenée dans notre tête, là, c'est que c'est sûr, quand on cherche la sagesse, c'est rare que les gens vont aller voir le gourou en bas de la montagne. Habituellement, ils vont vouloir aller chercher le gars qui est en haut de la montagne en termes de perception. Mais il ne faut pas se leurrer, parce que ça ne veut pas dire parce qu'il est en haut de la montagne que nécessairement il va apporter ce qu'on cherche.
C'est dans l'imaginaire, les montagnes, tu mentionnes la montagne, mais dans la majorité des cultures, par exemple Moïse qui est monté sur le mont Sinaï, Jésus est mort sur une montagne, les Tibétains qui sont le peuple, à mon avis, le plus spirituel du monde, sont sur le toit du monde. Donc il y a quand même, c'est pas une preuve, mais il y a quand même...
Des évidences quand même.
Ouais, une élévation.
Mais, parce qu'il y a moins d'humanité justement là-bas, c'est plus sauvage, l'air est plus pur, etc., etc., tu sais.
L'air est plus pur,
mais il y a aussi une qualité de vie, vraiment.
Une qualité énergétique aussi. Ouais, il y a des endroits puissants sur la planète.
Il y a des vortex énergétiques, c'est clair.
Oui, absolument.
Mais il y en a aussi en pleine ville, hein, comme New York. Donc,
Oui.
C'est ça, mais tu sais, l'imaginaire est très, très important parce que ça vient même dans nos rêves. Moi, j'ai une période où j'ai écrit mon livre qui s'appelle Le Grand Silence. Et puis, ça part beaucoup sur, justement, la verticale du monde. Et j'ai fait beaucoup de rêves à cette époque-là où j'étais sur le toit de gratte-ciel. Je voyais un gros soleil ou même une lune. J'étais au sommet de moi-même. Je le sentais. J'étais au top de ce que je peux être dans cette vie. Et pour moi, ça représentait ça. Vivre à la verticale du monde, ça représente aussi, pour moi, au niveau profond, c'est de vivre comme un dieu. Comme le Dieu vivant, c'est-à-dire que je pense que c'est Ulysse qui disait ça. Il dit l'éternité, c'est de se faire oublier des hommes et oublier les hommes. Comme les dieux grecs anciens oubliaient les hommes à un certain point, et les hommes les oubliaient, ça venait comme un fantôme. Je pense que c'est comme ça. Moi, c'est comme ça que je veux vivre. Je l'ai poussé à l'extrême à un certain point de ma vie, mais je me suis ramassé peut-être dans un coin un peu trop toute seule, ce qui est un peu dangereux dans une société comme ici. Si j'étais justement dans une montagne, ça serait facile, mais ici en ville, si t'es isolé, tu peux devenir victime très facilement. Donc, je me suis rendu compte qu'il fallait aussi que j'aille le relatif, donc que je sois au top de la montagne, mais aussi sur le bas aussi. Donc, les deux en même temps, une belle balance.
Mais j'ai une question, en fait, Nicolas. Est-ce que vous pensez que chaque personne va pouvoir être le dieu de soi-même, en fait? Est-ce qu'il va avoir un équilibre, en fait, si chaque personne devient le dieu de soi-même?
En réalité, tout le monde pourrait potentiellement. C'est là, pas en potentiel, mais la majorité des êtres humains ne sont vraiment pas intéressés à ça, et sur la Terre. On dirait qu'ils ne viennent pas ici pour ça. La majorité des gens viennent ici pour souffrir. Gurdjieff appelait la Terre la sainte planète du purgatoire. Donc, les gens ici viennent souffrir en cœur. Et puis, si un d'entre nous, comme le Christ ou le Bouddha, viennent enseigner, oh non, au contraire, on peut être heureux. Généralement, ces gens-là se font tuer ou ils passent un mauvais quart d'heure. On sait que Gandhi s'est fait assassiner. Socrate s'est fait assassiner aussi.
Mais c'est une bonne question, ça, d'un côté. Est-ce que Bianca vient d'avancer? Est-ce que ça serait... Des fois, tu veux savoir, si je prends cette démarche-là, est-ce que c'est la bonne démarche? Et puis, dans le cas de Bianca, je vais faire une extrapolation de ce qu'elle vient de dire. Là, mais est-ce que ça serait bon si tout le monde deviendrait Dieu conscient? Est-ce que ça serait bon pour tout le monde si tout le monde deviendrait Dieu conscient?
Je pense que oui, ça serait un monde idéal.
À première vue, oui, ça semble être sans une problématique, ça semble être l'idéal et tout ça. Mais peut-être qu'il n'y a personne qui va être intéressé à faire les tâches très basse et très difficile. Et qui va labourer les champs? Et puis qui va, tu sais, ramasser les melons dans le champ? Puis qui c'est qui va faire tout ce travail?
Parce que là, tu restes dans le relatif. Mais si tu deviens le Dieu vivant, tu te rends compte que le monde est une... C'est la Maya, c'est ce dont parlent les hindous. Mm-hmm. C'est-à-dire que le monde est une illusion. Donc, tu entres dans la réalité, la vraie réalité, un peu comme Néo. Néo, quand il rentre... Ça, c'est encore une métaphore, c'est un film. Hein, mais je veux dire, quand il arrive à Zion, oui, il y a des... C'est un petit peu difficile, mais en même temps, il y a la satisfaction d'être vraiment vivant. Donc, je pense qu'il y a plus tu t'éveilles, plus ça fait mal, parce que tu sens les gens, tu es de plus sensible. Mais en même temps, moins ça te dérange, parce que tu es de plus en plus vaste. Moi, je pense que c'est un idéal. Je pense pas que c'est possible sur la Terre. Je crois que c'est possible que ça arrive dans certaines planètes, dans l'univers, dans d'autres réalités, mais sur la Terre, je ne suis pas certain.
Puis de toute manière, pour répondre un peu à ce que tu viens de dire, Robert, quand tu as atteint un certain niveau de conscience, là, il n'y a plus de choses qui sont basses, comme ramasser les melons, je ne sais trop quoi, là, ou des corvées, c'est plus du tout ça, là, ça n'a rien à voir du tout. Donc y a pas, ça, le problème ne se pose pas.
C'est vrai ça. Ouais. Une fois que tu as atteint l'éveil, chaque détail devient un acte sacré.
C'est pour ça que j'ai amené la question. Ça.
Bon, on va vous laisser réfléchir sur ça. En attendant, on va passer la capsule de Audrey sous l'influence du bonheur. Et puis nous revenons après avec ce thème, vivre à la verticale du monde.
Bonjour à tous, vous écoutez l'émission Propos sur le bonheur et bienvenue à la 5e capsule sous l'influence du bonheur avec Audrey. J'ai 19 ans et j'essaie de mieux comprendre le monde dans lequel je vis pour m'aider à faire des meilleurs choix et puis à prendre de meilleures décisions. Je commence avec une citation de La Rochefoucauld. Il faut tenir à une résolution parce qu'elle est bonne et non parce qu'on l'a prise. Avec le mois de janvier qui s'est écoulé dans notre sablier en quelques secondes, ça a été très rapide, et puis le mois de février, qui se pointe le nez en nous apportant un froid de canard absolument brutal. C'est pas du tout anormal que notre morale se dégonfle juste un petit peu. Après le mois des résolutions, vient évidemment le mois de la réalité. Notre visite au gym est beaucoup plus occasionnelle qu'hebdomadaire. Et si on parle honnêtement, au yable les abonnements qu'on peut se réconforter avec un bon morceau de tarte au sucre ou bien un bon verre de cognac. C'est bien de faire des résolutions à chaque année, mais à un moment donné, il faudrait qu'on brise la glace et puis qu'on ait du succès pour que nos résolutions passent de la fiction à la réalité. Allez les ermites, sortez de votre cachette! Parallèlement à ce que je disais dans ma dernière capsule, la neige a cette capacité d'assouplir tout le paysage en grand royaume glacial. Sortir de notre zone de confort, littéralement dans ce cas-ci, ça fait super du bien. Que ce soit une bonne marche de santé ou une sortie dans un des nombreux festivals qu'offre Montréal... Surtout l'hiver, c'est surprenant, mais il y en a beaucoup. C'est vraiment important de le faire, parce que ça nous rafraîchit les idées, et puis surtout, ça nous donne un regain d'énergie. Cette vitalité, c'est essentiel pour vous aider à enfin accomplir vos buts. Alors, fini la procrastination. On doit ressusciter notre espoir et notre optimisme qui régnait le mois dernier. Et puis très bientôt, on va retrouver notre bonne humeur. Vous n'êtes toujours pas convaincu qu'on doit mettre sur pause notre période de dormance? Si c'est votre cas, alors je vous conseille de visiter un site web qui s'appelle Humans of New York, qui m'a souvent fait verser quelques larmes. En fait, c'est un jeune homme qui a perdu son emploi dans les finances, qui a parti ce blog-là. Il prend des photos de gens banals qui marchent dans la rue, tous les métiers confondus, des travailleurs, des fonctionnaires, des sans-abri. C'est n'importe qui a une histoire ou un petit quelque chose à raconter. Suite à une photo qu'il a mise en ligne d'un jeune homme qui disait que son principal, c'était son héros, le blogueur a fait un portrait de cette école-là, qui est dans un quartier particulièrement dur et pauvre à Brooklyn, dans New York. En quelques jours seulement, une fondation qui a été mise sur pied suite à la demande des internautes qui suivaient l'histoire avec intérêt et qui voulaient vraiment aider cette communauté-là, a réussi à fonder plus de 1,3 million de dollars. C'est ce qui est beau de ce site web-là. C'est l'entraide humaine qui est absolument formidable. On ne sait jamais ce qui peut se passer si on arrive à sortir de notre cocon. Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute et c'est un rendez-vous pour la prochaine fois. Écrivez-moi sur notre site web proposurlebonheur.com. Je suis Audrey et c'était la 5e capsule sous l'influence du bonheur à l'émission Propos sur le bonheur.
propos sur le bonheur. Notre thème aujourd'hui est « Vivre à la verticale du monde ». La verticalité peut se traduire dans notre comportement au quotidien, justement. Ça fait un lien avec ce qu'on a dit avant la pause. Quand on est le Dieu vivant, on voit le monde différemment de la majorité. Pourtant, on vit dans le même monde. Il est dit que avant l'éveil, la personne voit la montagne, elle coupe son bois, elle fait sa soupe. Pendant l'éveil, oh, ce n'est que lumière blanche et tout. Mais après l'éveil, la personne voit la montagne, fait sa soupe, coupe son bois. Elle revient dans le monde. Et je pense que bien sûr, il y a des gens qui s'éveillent et qui partent. Mais je pense qu'il y a aussi ceux qui restent, mais qui continuent à voir le monde, justement, à travers les yeux du Dieu vivant. Mais qu'ils vivent à la verticale. C'est-à-dire qu'ils n'interagissent pas avec les hommes de la même manière que la majorité. Par exemple, dans mon cas, quand moi j'entre en contact avec quelqu'un, je ne suis pas très attiré vers les émotions. L'émotionnel est souvent une interférence et cause tellement de problèmes. Moi, je regarde les sentiments. Je regarde mes sentiments par rapport à la personne. Et j'éduque les gens autour de moi à être dans le sentiment, dans l'énergie. Donc, quand je vais mourir, mon corps physique, les gens autour de moi seront éduqués à être dans l'énergétique et ils vont m'aider au lieu de me ramener dans l'émotionnel.
Pourrais-tu élaborer là-dessus?
Bien, par exemple, si autour de toi, c'est juste des gens qui sont émotionnels, souvent c'est la famille biologique, quand tu vas mourir, ils vont dire « Non, tu peux pas partir, reste. » Puis là, beaucoup de gens se sentent mal et ils reviennent. S'ils peuvent pas revenir dans leur corps tel quel, ils vont se réincarner, ils vont revenir dans la famille, là, une cousine, une petite sœur, une sœur qui a un enfant, etc.
Mais tu donnes un exemple, je comprends l'exemple que tu avances, mais dans un cas plus quotidien, là, si on sort du contexte d'une réincarnation, tu sais, juste des relations interpersonnelles, dans ce sens-là, est-ce que tu dis, comment tu fais la distinction du sentiment, relation avec une copine, relation avec un collègue de travail ou quoi que ce soit, tu sais, dans ce sens-là, comment tu fais ta distinction pour...
Le sentiment, c'est généralement ce qui va arriver tout de suite. Mm-hmm. Et puis là, après ça, les émotions vont arriver. Marie dirait le mental. C'est le mental embarque. Et là, peut-être. Puis ça, c'est l'après. Donc, le sentiment est instantané. Puis il n'est pas basé sur dans le temps non plus. C'est comme ici, maintenant, OK, je me sens bien avec cette personne-là. Mm-hmm. Et bon, l'émotion, c'est elle va me laisser peut-être. Elle va me manquer. Elle va mourir, etc. Ça reste toujours dans le temps. Alors que ici, maintenant, qu'est-ce que je ressens envers une personne, c'est généralement la bonne chose. Quand on est intuitif, en tout cas, on peut savoir beaucoup de choses.
Je pense que ça va aider les auditeurs parce qu'il n'y a pas tout le monde qui fait des distinctions semblables. Puis encore là, il y a des gens peut-être qui font d'autres distinctions différentes. Mais c'est pour ça que donc j'apprécie que tu fais ça. Voilà.
Oui. Bianca, tu veux rien dire? Okay.
Non,
mais... comment je pourrais expliquer ça par rapport à l'énergie? En ce qui concerne les illuminations ou atteindre la conscience, bon, quand j'ai... Depuis 2001, je suis dans la conscience pas mal toute la journée, presque. Mais énergétiquement, au niveau des sentiments, où... moi, je parle plutôt d'amour divin. Donc, c'est comme j'ai de l'amour pour tout le monde. En fait, pas juste les êtres humains, mais toute créature vivante. Et même vivante, je parle même des végétaux ou même les minéraux. C'est vraiment une vibration, un taux vibratoire spécifique, qu'en fait, il ne va rien interférer, que la personne m'insulte ou quoi que ce soit, ça ne va pas changer cet amour-là, en fait. Ça va rester tel qu'il est. Par contre, il peut y avoir une variation dans l'intensité. Parce qu'une fois, j'avais... ça me fait rire un peu parce que ça me fait penser à un de mes ex. Il voulait savoir comment je l'aimais et tout ça. Et puis, j'essaye de lui expliquer parce que la plupart du temps, les hommes, ils aiment ça. Qu'on les aime d'une manière inconditionnelle. C'est amour divin, inconditionnel. Waouh, il tripe. Mais après, quand tu leur expliques, regarde, mon chéri, je t'aime de la même manière que le gars qui est assis à côté de moi dans le bus. Alors là, ça ne va plus du tout. Là. Ça va plus, ça ne fait pas leur affaire. Donc, c'est ça. En fait, j'aime de la même manière tout le monde, là, sauf qu'il peut y avoir de l'intensité différente parce que j'ai plus d'affinité avec la personne. On fait des choses ensemble. C'est juste ça la différence. Mais... Sinon, à la base, il ne va pas y avoir... Moi, j'ai déjà eu des ennemis, je les aime pareil. Là, j'ai déjà eu des problèmes d'agression, comme je parlais l'autre fois déjà à la personne là, qui a été saoule. Là, puis qui me... ben là c'était vraiment une belle démonstration au niveau de l'amour. Qu'est-ce que l'amour peut faire? Désarme n'importe qui. Là, et d'un seul coup, elle est revenue comme toute gentille. Elle a même voulu me faire une bise sur la joue, etc. Donc... c'est ça, c'est un amour qui est tellement fort. Quand tu es tout le temps en connexion avec, tu vas transformer les gens autour de toi sans rien dire. Tu vas vraiment dissoudre les émotions qu'une personne, par exemple la colère ou peu importe quoi, ça va instantanément dissoudre ça. Donc, en partie, tu aides la personne à s'améliorer ou à ne plus être dans cet état-là, parce que c'est une personne qui va souffrir de toute manière si elle est en colère ou... tu sais, elle souffre. Donc, je comprends ce qu'elle vit, parce que je l'ai vécu avant, là, d'être dans la conscience. Et puis, ça la libère, quoi. Donc, en fait, mon propre évolution va aider l'autre à progresser aussi. Là.
En fait, tu parles de la compassion dont le Bouddha parle, c'est similaire. C'est l'amour.
Ouais, c'est de l'amour divin inconditionnel, mais voilà, c'est ça. Mais vraiment ancré dedans, pas juste une histoire de le dire. Là. C'est vraiment... Quand tu es dedans, tu vois vraiment la différence. C'est comme ça, pur rapport. Là. C'est pas une question d'être gentil du tout. Moi, je suis pas gentil. Là. Souvent, je dis, je suis pas quelqu'un de gentil, je suis quelqu'un de vrai. Ça n'a rien à voir. Là.
Donc, moi, j'aimerais ajouter quelque chose là-dessus. C'est peut-être pertinent ou non, mais ça me fait penser, puisqu'on parle de sentiments, d'émotions et tout ça. L'autre jour au travail, il y a un collègue qui m'informe que son appartement a passé au feu. Il a tout perdu. Il a tout perdu. C'est pas un homme qui est riche ou quoi que ce soit, mais il a perdu toute son historique, tous ses effets personnels, complètement. Et puis, s'il y a des gens ici qui ont déjà vu qu'est-ce que c'est un incendie ou de proche, là, c'est pas beau à voir. Ton appartement devient comme s'il est passé à travers une autre dimension. Tout est gris. Tout est gris ou noir. T'sais. Tu t'as fumé, tu t'as fondu, tu as changé de forme. Et mais qu'est-ce qui est arrivé, c'est ça qui est important que je veux dire, c'est que je me suis arrêté, j'ai écouté, j'ai rien dit, je lui ai laissé dire son affaire, puis il m'a pas dit des mots magiques, il m'a pas dit une description particulièrement complexe, particulière, j'ai juste senti, je me suis mis en ressentiment, et je me suis ouvert, puis je me suis ouvert au sentiment qui émanait, et j'ai eu de la peine. Et ça faisait mal. Et que ça faisait mal. Oh! J'ai ouvert la porte, c'est comme les chutes Niagara là, qui m'ont arrosé complètement d'intensité de douleur. Grande douleur. Grande douleur. Puis j'étais comme ça. Oh. J'avais ma main sur mon cœur, puis j'ai dit, oh, quelle douleur. Quelle épouvantable épreuve. Et ça, je l'ai laissé entrer, puis comme je l'ai laissé entrer, quelques secondes après, c'est arrêté. J'ai échantillonné à ce moment-là ce que j'appelle le dehors en dedans. Pas plus compliqué que ça. C'est ça pour moi la compassion, c'est d'avoir la capacité de ressentir ça. Ceci ne m'a pas affaibli. Ça a eu plutôt la capacité d'élargir mon sens de la perception, ma palette. Et je pense que c'est une direction qui est valable pour moi. D'élargir ma palette afin de pouvoir avoir la compassion puis comprendre avec une perspective plus large. Parce que le gars, il a de l'air toujours tough, ce gars-là. C'est un gars-là qui... C'est pas un gars qui, par son corps, exprime une douleur. Tu le regardes, c'est comme si tout va bien, mais tout allait pas bien. Et cette information, si je peux l'appeler comme ça, énergétique, émotionnelle, parce qu'elle m'a donné un sentiment de douleur pas mal intense, m'a apporté plus. En tout cas,
Ce que je disais tantôt, c'est justement quand tu es plus conscient, tu vas ressentir plus le monde.
Il y a des gens, puisqu'en contraste, il y a des gens qui vont se fermer, qui vont chercher à mettre la carapace, le bouclier protecteur. On ne veut pas entrer dans les émotions des autres. Non. On veut peut-être être empathique, qu'on va dire. On veut peut-être comprendre intellectuellement, mais on ne veut pas ressentir. D'ailleurs, on enseigne ça dans différentes écoles, les médicaux, les gens dans le médical et tout ça. Non? Et pour moi, c'est pas nécessairement la bonne approche.
OK. Et Robert, j'ai une petite question pour toi, en fait. C'est quoi la différence, en fait, entre la compassion et l'empathie?
L'empathie, dans ce sens-là. C'est plus intellectuel. Je comprends que tu souffres. Je comprends, personne devant moi, que tu as une douleur. Et je vais faire ce que je peux pour t'aider, etc., etc. Mais tu ne prends pas sur tes épaules, ou dans le cas ici que moi j'essaye de dire, tu ne prends pas le ressenti et tu ne l'échantillonnes pas comme si ce serait toi. Donc, tu n'ouvres pas la porte au sentiment nécessairement que la personne passe à travers. L'idée, c'est pas de pas te noyer dans une situation qui te rend improductif, selon l'argument.
Et nous allons faire une pause musicale avec Matt Pokora, cette chanson qui s'appelle « Plus haut ». Et nous allons revenir avec ce thème « Vivre à la verticale du monde ».
En oubliant qu'on est des grands, rire aux larmes de nos peines. Oh non, rendre à nos yeux l'enfance, à nos jolies.
Propos sur le bonheur. Notre thème aujourd'hui est « Vivre à la verticale du monde ». Pour illustrer cela, moi j'aimerais donner ici la légende de l'homme qui se fit étranger. Ça se passait dans une tribu, probablement en Amazonie. C'était un endroit où il faisait quand même assez chaud. C'est un vieil homme, il s'ennuyait. Il était tanné d'être avec les gens de sa tribu. Alors il a décidé de partir, mais pour être sûr que les gens ne viennent pas le chercher, il a décidé de faire un crime pour être certain que de les choquer tellement qu'il allait le mettre à la porte. Donc il a violé sa bru. Et là, il est parti avant même que les gens le chassent. Il voulait vraiment couper les liens. Lui, il est allé loin, il s'est trouvé un endroit là, en dessous justement d'un arbre, dans une grotte, et il y avait tout, il était en paix. Les gens du village, ils en parlaient autour du feu. Ils se sont rendus compte qu'ils s'ennuyaient de lui, alors ils ont décidé d'aller le chercher. Ils l'ont cherché pendant 6 mois, ils ont fini par le trouver. Et là, les villageois lui ont dit de revenir, mais il a dit qu'il ne voulait pas. Alors, les villageois ont décidé de déménager, de déménager le village autour de lui. Alors, ils sont partis, ils sont revenus. Quand ils sont arrivés avec toutes leurs affaires, lui était déjà parti. Il avait laissé un message qui disait que pour lui, il n'était plus intéressé d'interagir à l'horizontale avec les êtres humains. Ce qu'il voulait, lui, c'était dialoguer avec les étoiles. Alors, il était parti. Et je pense que c'est ça, vivre à la verticale du monde, c'est d'être plus intéressé par l'infini, par l'éternité, par l'absolu, que par les petits problèmes des êtres humains. Ça, c'est un cas extrême, mais...
Il aurait pu envoyer un texto à la place. Mais
j'ai vécu longtemps comme ça, moi, puis j'en ai gardé l'empreinte de cette éternité. Je pense que c'était très important, et si tous les êtres humains le faisaient, ça serait plus facile de vivre ici.
C'est un peu extrême comme exemple de toujours vouloir, parce que ça touche encore au thème de vouloir s'isoler tout le temps, comme la clé de l'éveil ou la clé de l'avancement de notre démarche, etc., etc. Pas certain que c'est vrai. Je pense que c'est un tango, la réalité. Quand tu viens, comme on sait, ou comme j'utilise moi le terme d'encapsulation poreuse, qui va d'ailleurs être le thème de mon nouveau blog, encapsulationporeuse.com, en passant.
En passant.
Et là-dessus, c'est l'idée de ça. C'est une danse, hein, où ce que ton Dieu intérieur, quand tu le découvres, quand tu le reconnais, quand tu l'écoutes, quand tu le vis, ça devient une danse avec un tango avec l'extérieur. Puis il y a un partnership qui se fait. Et c'est là que cette encapsulation physique devient de plus en plus poreuse, de plus en plus ou de moins en moins physique. Et arrive à m'emmener à des belles choses, mais c'est pas nécessairement une danse qui se fait en isolation. Donc oui, la nature est bien, là, elle nous amène à beaucoup de réalité puis beaucoup de qualité de recueil, mais c'est pas non plus à l'exclusivité d'être en contact avec la société.
Mais
non.
Quand t'es éveillé, t'es pas à l'extérieur, il y a pas d'intérieur, pas d'extérieur.
Ben, c'est ça.
Tu entends penser tous les êtres humains, donc c'est... ce que tu dis présentement, c'est plutôt au niveau relatif, mais l'être éveillé ne pense pas comme ça. Il est en contact avec la réalité, alors que le monde ici est une illusion. Il en est conscient.
Mais je pense que là, disons que c'est comme un peu extrême justement par rapport à s'isoler, etc. Moi, je ne vois pas ça comme ça. C'est parce qu'il y a plusieurs étapes. On n'est pas tous rendus au même niveau de conscience. Ça fait qu'il y a un niveau de conscience que ça va être difficile de rester avec les autres qui ont un niveau de conscience qui sont plus dans le matériel, dans le physique, dans les émotions, etc. Donc là, ça va être tough pour la personne de progresser parce que justement, elle est entourée que de ça, des êtres qui sont à l'horizontale. Okay, mais après, graduellement, là, pour lui, ça va être de plus en plus facile de quand même côtoyer ces gens-là tout en les aidant aussi. Donc il y a vraiment plusieurs étapes là. C'est pour ça qu'il ne faut pas parler d'une seule étape comme genre, allez, on s'isole et là, on peut atteindre l'illumination. Non, c'est pas ça. Il n'y a pas juste deux choses. Là, c'est vraiment graduel. Et c'est selon la personne où elle est rendue qu'elle peut justement ou pas côtoyer des personnes à l'horizontale. Là, c'est ça. Ouais. Puis plus tu es élevé, là, plus tu peux les côtoyer parce que bah, tu compatis, etc. Et tu les aides. Le but, c'est ça. T'sais. Et quand tu regardes, par exemple, Mère Teresa, là, mais avec tout ce qu'elle a pu voir et sentir comme souffrance, mais cette femme-là, elle n'était pas pantoute dans les émotions. Elle ne peut pas rentrer dans les émotions pour aider les gens, c'est absolument impossible. Donc même si tu ressens blablabla, tu crois qu'elle perd du temps à ressentir tout ça quand il y a quelqu'un qui souffre? Non, elle fait sa job et elle était hyper centrée là, puis elle ressentait pas ces émotions là parce que tu peux pas aider quelqu'un quand tu es dans les émotions, tu sais. Donc et je dis pas de te bloquer, ça n'a rien à voir avec ça. C'est quand tu es dans la conscience, c'est pas un blocage pantoute, c'est tout le contraire, tu es méga ouvert, mais ça t'es détaché des émotions, tu peux pas être touché par quoi que ce soit et comme ça tu peux vraiment être productive et aider la personne justement à atteindre ce niveau de conscience que tu as toi-même.
Oui, merci de le ramener le sujet, on parlait justement de ça tantôt dans l'intermission. Et on parlait du monde qui sont dans le médical, puis tout ça, où est-ce que c'est nécessaire d'avoir une approche qui protège celui qui travaille dans le milieu afin de ne pas devenir une personne qui veut se jeter en bas du pont, d'avoir toutes sortes de souffrances constamment. Mm. Et je reconnais bien sûr que c'est stratégique de faire ça. La seule chose que je veux dire avec ça, c'est aussi un problème si ça devient un mécanisme tellement bien ancré qu'il est toujours là ou qu'il domine dans le quotidien. Alors, à ce moment-là, on se coupe et puis on perd cette capacité de sentir. Parce que vraiment, pour moi, la définition de la compassion, pour moi, c'est de sentir l'extérieur à l'intérieur. C'est ma définition à moi. Mm-hmm. Les autres peuvent avoir leur définition qu'ils veulent. Pas de problème, mais pour moi, c'est ma définition. Alors, il faut que j'aille ce mécanisme, cette porte doit toujours demeurer ouverte. Le mécanisme doit rester intact. Comment le contrôler, comment l'organiser, c'est une autre chose.
Mais tu sais, la personne qui est élevée ou en état d'élévation, à mon avis, n'est pas mieux que quelqu'un qui est normal. Il est simplement différent. Moi, j'aime beaucoup prendre l'image de quelqu'un, par exemple, une personne qui est au sol, et l'autre personne qui est totalement en haut d'un gratte-ciel, elle qui est au sol, elle entend tous les bruits, les autos, le vacarme du monde. Alors que celui qui est en haut, il entend le vent, il n'entend pas les gens. Mm-hmm. Et lui en haut, il est dans les sentiments pour moi. Il est dans l'être. Alors qu'en bas, il est plutôt dans la personne.
Est-ce que tu peux ressentir les émotions des autres? Moi, je les sens là, tu sais, n'importe quoi, je le sens. Mais je ne vais pas le faire justement entrer, parce que je sais que, par exemple, les émotions, c'est vraiment le monde astral, là, c'est vraiment l'illusion. Et là, ça va justement t'amener la tristesse, tu vas devenir dark, etc. Est-ce que tu as vraiment besoin de ça? Est-ce que tu as besoin de cette expérience-là
Oui, tu as besoin de ça. Tu as besoin de ça pour la raison suivante. Tu as besoin de ça pour comprendre la situation devant toi. Comprendre la position de l'être qui est devant toi. Comprendre aussi que toute cette chose-là s'achemine, comment qu'elle s'agente. Qu'est-ce que cette personne-là qui semble être normale, qui ne porte pas des vêtements défigurés ou quoi que ce soit, ne semble être monsieur tout le monde dans un cas, arrive et discute avec toi puis véhicule quelque chose parce que tu es sensible à ce moment-là. Tu viens de comprendre qu'il passe à travers une peine, mais que les paroles n'accompagnent pas la peine. L'apparence n'a pas... Donc, le langage qui reste est haute. Donc, c'est pour ça que cette valeur-là, pour moi, est importante. C'est ma position là-dessus. Tu dois avoir la capacité d'ouvrir la porte et pas juste de faire un bulldozer par-dessus, là, puis penser que tout est beau. Il y a des choses qui se parlent, qui se communiquent, qui sont invisibles. Ça fait partie de ça pour moi.
Mais c'est pas ça que j'ai dit hein, par rapport au bulldozer, etc. C'est pas
non,
ça
non,
que
je
pars,
dis pas
hein?
Bulldozer, mais okay. Parce que les gens sont très affairés. Il y a des gens qui sont très affairés à vouloir résumer tout ça rapidement.
Non, mais par rapport aux énergies, par rapport à la conscience, tu as une maîtrise des énergies. Donc moi, quand par exemple, je vois une personne, comme tu dis, qui a l'air de rien, qui a l'air pas de souffrir, okay? Moi, je sais instantanément qu'elle souffre. Okay? Mais ça ne va pas être ma souffrance, c'est la sienne. Okay? Et puis, ce qu'elle doit vivre, elle doit la vivre. Tu ne peux pas vivre une émotion pour l'autre. C'est absolument possible.
Et je n'implique pas dans ce que je dis ici que tu dois prendre sur tes épaules les problèmes des autres. Parce qu'ils apprécient, comme l'homme que je parlais tantôt qui a eu un incendie, on pourrait le dire dans le principe de la loi magnétique, il s'est attiré ce problème-là. Donc, il mérite, pas il mérite dans le sens qu'on veut être méchant, mais on veut dire ses circonstances, sa gérance d'énergie personnelle.
Il doit apprendre quelque chose là-dedans, c'est sûr.
Oui, il y a quelque chose à vivre là-dedans. Et puis, connaissant ce que je connais de lui, j'ai déjà une théorie là-dessus. Mais ça reste quand même que ça a brûlé.
Mais tu vois, moi, la compassion, OK, c'est bien, là, mais moi, je crois qu'il y a quelque chose de supérieur à la compassion, que c'est la compréhension. Pour moi, je n'aurais pas cherché à ressentir, justement, parce que je ne veux pas rentrer dans les émotions.
C'est ça.
J'aurais cherché à le comprendre. Mm-hmm. Parce qu'il arrive à un être tout ce qui lui ressemble. Mm-hmm. Ce n'est pas la maison de son voisin qui a brûlé, c'est de la sienne. Mm-hmm. Et le feu est partout dans la représentation de l'illumination, le nettoyage. Mm-hmm. Il y avait une partie de lui-même qui n'était plus de ce monde et elle a brûlé. J'ai un ami aussi qui a une partie de sa maison qui a brûlé. Puis, même une femme qui est rentrée en contact avec moi après 10 ans parce qu'elle avait pensé à moi soudain. J'ai dit, fais attention à mon contact. Moi, c'était à une période où j'étais extrêmement énergétique au niveau... j'avais des expériences mystiques très fortes. Et puis, 3 jours après, elle était sur le pont puis le feu a pogné dans son auto. J'ai dit, ben, tu sais, fais attention. Approche-toi pas trop de moi dans l'état où toi tu es présentement parce que au lieu de t'allumer, tu pourrais te brûler. Et c'est souvent, des fois, une énergie qui est mal redirigée. Donc, cet homme, il a mal redirigé son énergie. Donc, il a subi cette énergie forte. Moi, c'est dans la compréhension.
Mais exact, dans la compréhension. Parce que là, vibratoirement, dans la conscience, au niveau de l'amour divin, c'est ça qui se passe. C'est la compréhension instantanée, quoi. T'as pas besoin de passer par les émotions pour comprendre. C'est la compréhension instantanée.
Eh bien, c'est votre opinion.
Ben oui, mais c'est ça.
Bien, on va faire une pause musicale avec la chronique de Safia, L'art du bonheur. Et nous allons revenir après la pause avec ce thème, vivre à la verticale du monde.
Bonjour à tous, merci d'être à l'écoute de Propos sur le bonheur, l'émission qui met le bonheur au centre de ses priorités. Ici Safia dans l'art d'être heureux et cette semaine, je vous présente le 11e levier du bonheur. Tous ceux qui sont dans l'épreuve vous donneront l'ingrédient secret des victoires, succès et guérison. Tous vous répondront qu'il faut monter la première marche même quand on ne voit pas tout l'escalier, comme Martin Luther King définit la foi. La foi accomplit des miracles. Alain le dit autrement. Il faudrait compter sur la nature, voir l'avenir en beau et croire que la vie triomphera. C'est plus facile qu'on ne croit, parce que c'est naturel. Tout vivant croit que la vie triomphera. Sans cela, il mourrait tout de suite. Des recherches croissantes tentent à démontrer que les personnes religieuses sont plus heureuses, en meilleure santé et rebondissent mieux face à l'épreuve que les non-croyants. Si vous avez une chirurgie cardiaque grave et que vous avez une foi religieuse, vous avez même jusque 3 fois plus de chances d'être en vie 6 mois plus tard. La neurothéologie se consacre à l'étude scientifique du cerveau et du phénomène spirituel. Selon son fondateur, le Dr Newberg, la prière au sens large comprend les prières traditionnelles et la fréquentation d'un lieu de culte, tout autant que la méditation et la pensée positive. Toutes ont un effet actif sur notre cerveau qui se répercute sur notre qualité de vie de manière multidimensionnelle. Le docteur a ainsi mis au jour que la prière, dès lors qu'elle dure un temps considérable fixé à 20 minutes quotidiennes, active le lobe frontal et contribue ainsi à lutter efficacement contre le rétrécissement dû au vieillissement. Elle stimule également le cortex antérieur, le cœur neurologique qui nous permet de ressentir amour, compassion, connexion. Elle en sait désormais l'impact des émotions positives sur notre seuil de bonheur. Aussi bien, la psychologie positive nous invite à pratiquer une spiritualité, une religion, une méditation, une quête de sens comme une réponse à la question de signification et direction. Selon Jacques Lecomte, il existe 3 grandes façons de donner du sens à sa vie. Dans ses relations affectives, dans ses croyances et convictions, ainsi que dans l'engagement dans l'action. Exercez-vous à chercher du sens, à trouver du sacré dans la vie quotidienne, pour le dire comme Sonia Lyubomirsky. Aussi minime soit-il, un repas, un rire d'enfant, cherchez. La magie est partout. Des ouvriers chargés de préparer des plats froids, emballer les couverts et laver les plats, répondent à 82% qu'ils continueraient à travailler même s'ils percevaient le même salaire pour rester à la maison. Surprenant ? Pas tant. Quand on sait que 75% trouvent du sens à leur travail par différents moyens. Cette semaine, je vous invite à dresser un tableau qui ait du sens. Repensez aux activités de la semaine passée, ce que vous avez fait et le temps que vous y avez consacré. Soyez sincère et exhaustif. Ajoutez-y ensuite votre appréciation. Si vous trouvez ce temps d'activité satisfaisant ou si vous souhaitez y accorder plus ou moins de temps. Libre à vous ensuite d'accommoder votre tableau. Y a-t-il des activités dans votre vie actuelle qui pourraient vous apporter davantage en termes de capital suprême? Soyez à l'affût de là où vous pouvez ajouter une goutte de sens. C'était Safia dans l'art d'être heureux et je vous souhaite de trouver le sacré dans votre quotidien. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires sur propossurlebonheur.com.
De retour à propos sur le bonheur. Notre thème aujourd'hui est « Vivre à la verticale du monde ». Alors nous sommes allés très haut dans la métaphysique, mais aussi on peut revenir dans le monde relatif. Hein, la hauteur, les gens ont souvent une admiration pour les gens qui sont grands. Moi, j'avais des amis comme ça, surtout un qui était grand, il faisait 6 pieds 4, toutes les femmes étaient après lui. Il allait n'importe où, les femmes étaient après lui. Mm-hmm. Les gens grands dégagent une force. Il y a des gens, des leaders qui sont grands. Moi, je suis allé dernièrement voir le musée de cire et j'étais surpris de voir la grandeur de certains d'entre eux. Obama ne me semble pas très grand, mais quand j'ai vu sa sculpture de cire, oui, il fait au moins 6 pieds quelque. Et
ouais.
Ça fait partie de l'imaginaire. Et puis en même temps, ça en parle beaucoup, hein, de la grandeur, de la verticalité. Toujours cette idée de s'élever. On imagine une race d'êtres humains supérieurs, très grands. Et quand on parle des petits gris, c'est donc tout dégénéré, ils sont petits. Il y a cette idée de que plus on est grand, plus on est beau.
Ouais, on est beau, non.
Dans la mode, par exemple, tu peux pas vraiment être dans la mode si tu fais pas 6 pieds
plus.
Dans
la mode, là, c'est sûr, ouais.
Là, je t'ai dit qu'on était au relatif, là, parce que j'aimerais bien que...
Bon, vas-y, exprime-toi.
Exprime tes idées.
Je suis déconnectée, là, maintenant, avec le relatif.
En fait, j'ai vu une étude là-dessus. En fait, on avait... j'ai fait une recherche pour voir pourquoi les femmes sont plus attirées par les personnes qui sont... par les gars qui sont de haute taille que par ceux qui sont plus petits là. Mais en fait, ce qu'ils ont retrouvé à la fin de la recherche, c'est que les hommes qui sont plus hauts là, c'est comme ils ont une sorte de protection qui leur façon, leur morphologie procure une certaine protection à la femme en fait. Ils se sentent protégés par une personne qui est plus grand que lui. Mm-hmm. Donc moi, j'ai trouvé ça un peu bizarre parce qu'il y a des personnes de petite taille, par exemple, des hommes politiques de petite taille qui ont beaucoup d'influence, beaucoup de charisme qu'une personne qui est de grande taille. Mmh. Mais ça a été vraiment... ça m'a dit, c'est important de savoir ça. Donc, ils accordent beaucoup d'importance à la personne de haute taille. Même quand on est en classe, en fait, la personne qui est de haute taille, on va lui donner plus d'importance qu'une personne qui est de petite taille. Mmh. Donc, ça arrive tout le temps dans la société, en fait.
Moi, j'étais avec une femme qui me dépassait un petit peu. Quand elle était en plus avec ses talons hauts, elle me dépassait carrément. Moi, j'avais aucun problème avec ça, mais elle m'a dit que parfois, ça la dérangeait. Puis elle était un peu... Elle avait honte parfois. Et donc, quand est venu le temps de lui présenter un autre homme, moi, je lui ai présenté un de mes amis qui fait 6 pieds 4. Maintenant, ils sont ensemble. Et elle va très bien avec. Elle se sent comme... Elle est forte, mais lui, il est tellement fort aussi. Donc, il y a ce sentiment de protection, oui, c'est vrai. Moi, je l'ai senti chez certaines personnes.
Chacun a sa chacune.
Oui, tout le monde, les goûts sont dans la nature, mais ça peut être aussi comme se préférer à soi-même. Pour moi, la verticalité, c'est de se préférer, être le centre du monde. Beaucoup de gens vont parler que c'est de l'égoïsme, mais moi, je fais une différence entre la centration et l'égoïsme. La personne centrée n'est certainement pas un égoïste parce qu'elle n'est pas centrée sur la personne, sur le mental. Elle est centrée sur ses sentiments, sur ce qu'elle est vraiment, et elle peut prendre des décisions éclairées. Lorsqu'on est centré, on pense clairement. Pour moi, c'est une évidence. Mais je trouve que les gens sont très décentrés dans notre société, et ça, c'est un vrai danger. Moi, j'ai l'impression d'être dans un pinball où tous les gens rebondissent sur les autres et se font mal. Ils réfléchissent pas avant d'agir.
Oui, c'est vrai que je pense qu'il y a une notion, tout ça c'est psychologique, l'histoire de grand ou petit, parce que même un homme petit va avoir plus de complexes, tu sais. Il peut pas vraiment, tu sais, on les voit pas, tu sais, si t'es grand, on te voit plus qu'un petit, tu vois déjà. Et puis ça va pas mal développer des complexes chez une personne quand un homme est petit, tu vois, parce qu'il y a vraiment cette notion-là, il y a aussi la domination, la notion de domination, dès que t'es grand, tu peux, ou la protection, c'est comme vraiment, tout ça c'est dans la psychologie, là. Parce qu'en fait, un homme grand, il peut très bien pas du tout te protéger, hein. C'est idiot, moi, je trouve, en fait, de penser ça, parce que c'est pas parce que tu es grand que tu vas être capable de me protéger, là. Alors qu'un petit, il pourrait peut-être beaucoup plus aussi de me protéger. Donc, je pense que c'est vraiment ça. C'est encore une histoire, d'après moi, de conditionnement.
Mais ça me fait penser au film.
La société et tout. C'est toujours, on revient à ça, mais c'est vrai. Là.
Ça me fait penser au film d'arts martiaux. Tu vois les petits Chinois et les petits Japonais qui abattent des gros Américains, des mastodontes.
Ils prouvent.
Donc, c'est de la perception. C'est peut-être aussi un peu des engrammes de famille. La femme, son père était petite. Fille, cette chose-là, cette dynamique-là de grandeur vis-à-vis rentre en ligne de compte, possiblement, avec tout ça. Mais c'est ça, ça devient
Mais ça fait un lien avec ce que je disais au début à propos de l'archétypologie mythique.
Ouais.
C'est-à-dire que c'est la hauteur fait partie de ce qui est positif. On dit s'élever
ouais,
au sommet de la gloire,
ouais, ouais.
Monter l'échelle. Mais pourquoi pas descendre l'échelle, mais arriver quand même? Mais ça fait partie de...
C'est une métaphore plus que d'autres choses, d'après moi.
Mais c'est de l'archétypologie. Les archétypes sont beaucoup plus profonds que notre pensée. Les archétypes sont là avant même que la personne soit là. L'archétype, c'est ce qu'on retrouve dans les rêves. Et les rêves sont communs à la majorité des êtres humains. Même des êtres humains qui ne se sont pas touchés, qui ne se sont pas contactés, vont avoir des rêves similaires. Et c'est démontré par des gens qui ont fait des recherches sur ces sujets-là. On peut retrouver des sculptures, des légendes qui sont seulement un petit peu changées, mais qui sont toujours la même base.
Ben, y a tout ça parce que c'est toujours pareil. C'est parce qu'on est dans le monde physique. Là. C'est toujours ça, le truc. Parce que si tu es dans la conscience... Ben, excuse, mais il n'y a pas de haut, il n'y a pas de bas, il n'y a pas de côté, ça n'a rien à voir, là. On n'est pas dans le monde de la forme, là. Il n'y a plus de forme, là. Il n'y a pas de haut, là. C'est quoi le haut? Non, il n'y en a pas, là, tu sais.
Exact. J'ai l'impression que ça part, justement, de les premiers êtres vivants, les plantes qui se sont élevées vers la lumière. Et c'est comme toujours, on a un troisième œil dans notre cerveau qui était à la base un œil qui servait à voir la lumière simplement et qui a rentré simplement au centre, qui est la glande pinéale. Donc toujours cette aspiration vers la lumière, on a l'impression que c'est vers le haut, mais c'est vrai que quand tu as une expérience de lumière blanche, tu te rends compte qu'il n'y a plus de haut, il n'y a plus de bas.
C'est tout autour.
Il n'y a plus d'intérieur, plus d'extérieur, tout est blanc. Et où tu vas aller? Quand je vais mourir, je ne vais pas aller nulle part d'autre. Moi, c'est clair, dans ma tête, je ne vais pas monter au ciel. Là. Je vais être ici maintenant.
Wow. Ça, c'est juste le vocabulaire de haut et bas qui est là parce que c'est limité par la forme. C'est juste ça. Qu'est-ce que tu en penses, Bianca?
Wow, c'est important, en fait. J'ai su pas mal de choses, en fait. Mais quand même, je pense pas qu'on peut retirer dans la tête des gens que tout ce qui est en haut, c'est le positif. Tout ce qui est en bas, c'est le négatif. Parce que ça a été comme ça et ça continue d'être pareil. Quand quelqu'un te dit, par exemple, comme on avait pris, par exemple, je vais monter dans l'échelon social, tout le monde pense, waouh, c'est bon, c'est bon. Mais quand tu dis, ah, on m'a
rétrogradé,
tout le monde dit, oh, non, ah, c'est pas bon, c'est dommage, t'es descendu. Donc, même si c'est psychologique, mais ça a beaucoup d'effet sur les gens. Donc, je ne crois pas qu'on pourrait comme retirer ça dans la tête des gens. C'est déjà fait, c'est déjà ancré. Donc, c'est mieux d'être dans les... Comme a dit Marie, tu es dans la conscience. Si chacun fait ce travail là-dessus,
il y a une transformation.
Ça va être changé au moins.
C'est supporté, bien sûr, par le militaire, qui est un système hiérarchique. Tu grandis, tu montes dans les rangs, et tout ça, tu deviens général.
Ouais.
C'est aussi supporté par ce que la société voit comme un trophée, qui est comme l'argent.
Ouais, c'est
l'argent,
ça.
C'est considéré comme un trophée, souvent. Donc, plus tu as d'argent, plus que tu as de trophées, plus que tu as de mérite, plus tu es en haut dans cette image qu'on donne d'une société ou d'une hiérarchie.
Ouais, et plus en plus, on te respecte, en plus, on te donne plus, même si tu ne le mérites pas, mais on te donne le respect.
C'est ça, tu mets de l'argent dans une banque, tu sais, puis si tu es en haut, si tu mets assez d'argent, on te donne d'autres argent, tu sais. On va t'en donner d'autres,
ouais.
Tu sais. Mais si tu n'en as pas assez, on va commencer à t'en enlever. Puis plus par mois, chaque mois, ça va coûter plus cher.
C'est ça.
Mais même, on peut penser au racisme aussi, je veux dire, les Noirs, les Blancs, bon... Les Noirs sont toujours considérés comme des inférieurs dans des sociétés où c'est très mixte, comme en Amérique latine ou en Afrique, où tu as des gens qui sont un peu plus, moins, qui sont quand même des Noirs, mais qui sont plus pâles. Ils sont vus comme étant supérieurs. Et je pense que ça, c'est très, très profond dans notre psyché. Comment tu veux enlever ça? Pourtant, on est tous... c'est pas la couleur de la peau qui fait que tu es plus intelligent.
C'est de les connaître. C'est ça la solution, c'est de les connaître, de les accueillir. Comme si tu enlèves ces préjudices-là.
Mais ça demande quand même beaucoup de travail, en fait. Pas mal de travail.
Ça n'a pas été trop fort pour moi.
Parce qu'ici, c'est pas mal noir et blanc. Mais par exemple, moi, je connais beaucoup de gens de l'Amérique latine où tu as une gradation incroyable. Là. Ça part de noir, noir, noir à blanc, blanc, blanc. Et puis entre les deux, tu as plein de gradations. Et dans la société, il y a comme... Plus tu es blanc, même si tu n'es pas totalement blanc, tu as comme certains droits. Alors qu'ici, je trouve que c'est pas si... Tu sais, c'est plutôt des contrastes. On est des noirs, des noirs, des blancs, mais il y a...
Il y a eu pas mal de changements, parce qu'à un moment donné, c'était, si t'étais bronzée, là, t'étais paysanne, il fallait surtout pas se faire bronzer, il fallait vraiment garder la peau blanche, t'avais l'ombrelle et tout. Mais là, c'est le contraire pas mal. Quand t'es bronzée, là, t'as été à Cuba, santé, t'as ouais. été là.
Ouais. Et, ouais, ça, c'est bon.
Ça, le changement. Oui, Nicolas. Donc, voilà, tout le monde est d'accord, d'accord. Vous êtes d'accord aussi, vous? Super.
J'en pâtis. Ouais. Donc, on peut revenir à l'élévation de la pensée. De toute façon, l'émission est
c'est
sur
fini,
le point
là,
de finir.
Il est
loin,
ouais,
on mais moi, il me semble important de penser à la verticale du monde. Tout ce qu'on fait. Pour moi, c'est quand je m'applique à faire quelque chose, je ne pense jamais à l'horizontale. Mm. De prime abord, j'y pense aussi. Mais quand j'écris un livre, par exemple, mon but, par exemple, n'est pas d'être populaire. Mon but est d'être un classique. C'est-à-dire de rester dans l'histoire, justement, de rester... intemporel, d'être toujours valide. Mm. Je ne sais pas si vous avez une pensée à laisser à nos auditeurs avant de partir.
Moi, j'aime ça être à l'horizontale. Pas vous? La grosse question finale.
Et moi à la verticale.
Et toi à la verticale. Amusez-vous avec ça, les amis.
Bon, bien, on vous laisse sur cette pensée. Merci d'avoir été à l'écoute. Bonne semaine à tous.
Bonne semaine.
Bonne semaine.
Et j'aimerais remercier le mouvement jovialiste. Radio Centreville, Radio H2O de nous appuyer dans ce projet. Et on vous laisse avec cette chanson de Pete qui s'appelle Plus haut. Et je vous invite à venir écouter la fin de l'émission sur proposurlebonheur.com.
La vie ne fait pas de cadeaux, on tombe, on se lève, on vise toujours plus haut. Plus haut, plus haut. On vit comme dans un film, quoi. Et ne laisse personne te juger. Si tu montes, on fait un signe, moi. Je crois en celui que tu vois sur ton miroir. Si tu m'as tapé un signe, je donne rendez-vous à ceux qui m'ont négligé. La vie c'est comme un livre, la vie c'est comme un livre, la vie c'est comme un livre. L'histoire c'est toi qui l'écris. Déterre depuis le berceau. Malgré les coups durs, on vise toujours plus haut, plus haut. Plus haut, plus haut. La vie ne fait pas de cadeau. On tombe, on se relève, on vise toujours plus haut, plus haut. Je cherche l'assurance dans la bouche des autres. Comme un coq qui chante à l'aube, je veux que ma voix résonne. Que mon esprit soit libre, la peur qu'on emprisonne. J'hésite, je doute, au lieu de tenter ma chance. Tu perds confiance à cause des mots. Ils t'ont fait baisser la tête, maintenant faut que tu la rehausses. Que ton esprit soit libre, la peur qu'on emprisonne. J'hésite, je doute, au lieu de tenter ma chance. On vit comme dans un film, quoi. Et ne laisse personne te juger. Si tu m'entends, t'en fais un signe. Je crois en celui que tu vois sur ton miroir. Si tu m'en tapes un signe, moi. Je donne rendez-vous à ceux qui m'ont négligé. La vie c'est comme un livre, la vie c'est comme un livre, la vie c'est comme un livre. L'histoire c'est toi qui l'écris. Déterre depuis le berceau. Malgré les coups durs, on vise toujours plus haut, plus haut. Plus haut, plus haut. La vie ne fait pas de cadeau. Autant mon soleil, on vise toujours plus haut, plus haut. La vie ne fait pas de cadeaux. La vie ne fait pas de cadeaux. Plus haut, plus haut. Déterre depuis le berceau. Malgré les coups durs, on vise toujours plus haut.